Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. Une journée plutôt nuageuse dans le Beaujolais, même si on a encore quelques éclaircies. On attend surtout des averses cet après-midi, avec des températures autour de 11 degrés. D'ici 13h, on va retrouver la chronique Ampliflore de Gabriel Caramana, ethnobotaniste. Et on terminera avec le prof Patrick et l'épisode 3 de sa série sur, attention, le libertarisme autoritaire. Avant ça, on accueille notre invité du jour, Noël Agnelli. Il est président de l'association Les Artistes, Beaujolais Val-de-Saône, collectif, comme son nom l'indique, d'artistes, qu'ils soient autodidactes, éclairés ou artistes accomplis, dans différents domaines, des arts plastiques, peinture, sculpture, vitrail et j'en passe. On va s'intéresser à ce collectif, à leurs activités, et puis on va parler surtout d'un événement qu'ils organisent ce week-end, c'est le Salon du Livre de Montmerle. Avant ça, un petit peu de musique, on écoute Bruce Springsteen pour commencer l'émission. Voici Dancing in the Dark. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14, merci d'être avec nous.
Bruce
Bruce Springsteen sur Calade. Springsteen, je vais essayer de le prononcer correctement, c'est quand même mieux. C'était Dancing in the Dark.
Ensemble sur Calade.
Allez, notre invité du jour, c'est monsieur Noël Agnelli. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes président de l'association Les Artistes, avec le petit sous-titre Beaujolais Val-de-Saône, pour qu'on sache où on est. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ?
Alors, nous sommes une quinzaine d'artistes de toutes disciplines, principalement des peintres et des sculpteurs. Nous avons créé cette association en 2016 à Montmerle-sur-Saône.
Ouais.
Et nous avons depuis organisé de nombreuses expositions dans la région. Principalement à Montmerle, mais ailleurs aussi, notamment à Ans, où on va régulièrement au Château des Tours ou à la Chapelle Saint-Cyprien. On a fait des expos à Mâcon, enfin un petit peu tout au long de la vallée de la Saône, en définitive.
Et le but de se regrouper en collectif, en association pour des artistes, c'est quoi ?
C'est toujours difficile pour un artiste de monter une exposition parce que ça demande un gros travail, une exposition personnelle, ouais. J'entends.
Travail qui n'est pas forcément artistique. Enfin, quand on a envie de faire de l'art, on n'a pas forcément envie de faire de l'administratif, d'envoyer des courriers, etc., de prendre des
rendez-vous. Oui, c'est ça. Bon, ça nécessite de l'organisation, un certain savoir-faire, je dirais.
Ouais.
Donc avec l'expérience, on peut dire que notre association a ce savoir-faire et qu'aujourd'hui, on peut organiser une exposition dans des délais raisonnables où on va présenter une quinzaine d'artistes qui sont principalement issus de l'association, mais également qui sont des artistes invités.
D'accord.
Voilà. L'intérêt de cette formule, c'est que ce sont des expositions qui sont variées. Il n'y a pas de monotonie, il y a toujours de la nouveauté. Et c'est important pour les visiteurs qu'ils puissent voir ce renouvellement.
Et quand on vous dit des artistes invités, c'est qui ? C'est des artistes que vous connaissez, que vous avez rencontrés sur des expositions ? Comment ça se passe ?
Oui, c'est ça, oui. Et le deuxième intérêt de cette formule, c'est que ça nous permet de faire le recrutement en connaissant bien les gens, en ayant vu ce qu'ils font. Et puis, est-ce que leur état d'esprit fait que ils s'accordent bien avec l'association.
C'est possible de travailler ensemble. Donc, si j'ai bien compris, Les Artistes, c'est une association qui est vouée à grandir, à s'entourer de nouveaux membres régulièrement.
Alors, pas trop.
pas tant que ça.
Pas vraiment. En fait, on n'ira jamais au-delà d'une vingtaine de membres.
Ouais.
Parce que ce qui se passe, c'est que les salles d'exposition ne sont pas toujours très grandes. Et si on avait un trop grand nombre d'adhérents, ils seraient frustrés parce qu'il y aurait simplement que quelques tableaux par expo, et c'est pas ce qu'on veut. Donc jusque-là, ça s'équilibre bien. Il y a toujours au moins une dizaine d'artistes. Et on a un nombre de tableaux satisfaisant pour bien apprécier le travail de chacun.
Ouais. Il n'y a pas que des tableaux, il me semble, dans le collectif, il y a de la sculpture, enfin, tous les arts plastiques sont représentés, ou presque.
Alors, à l'heure actuelle, oui, il y a de la peinture à l'huile, il y a de l'aquarelle, du pastel. En sculpture, on a de la sculpture sur terre.
D'accord.
Et puis moi-même, je sévis dans l'art numérique.
Voilà. C'est-à-dire ? Ça peut être large.
Mais je fais des tableaux sur l'ordinateur. Je compose des scènes sur ordinateur. Bon, c'est, on va dire, c'est un peu déroutant au départ, parce qu'on peut dire, mais c'est pas de la peinture, il n'y a pas de pinceau, etc. Eh bien si, sur Photoshop, il y a des pinceaux. Et puis voilà, bon, l'intérêt, c'est toujours de respecter les règles de composition des tableaux. Et voilà, parfois, avec les différents effets qu'on peut mettre sur ce numérique, on en arrive même à ne pas faire la différence avec une aquarelle, par exemple. Ouais. Ça m'est déjà arrivé que les gens se méprennent.
Se trompent.
Voilà. Donc, on peut dire qu'on a réussi quand c'est comme ça.
Vous organisez donc régulièrement des expositions. L'un des gros événements que vous organisez depuis 3 ans, je crois, c'est le Salon des Arts à Montmerle.
Oui.
Ça consiste en quoi, cet événement ?
Alors, on réunit une quarantaine d'artistes. Donc, on réunit une quarantaine d'artistes venus d'un peu toutes les régions. Et on a aussi 2 invités d'honneur de bon niveau, voire même de haut niveau.
D'accord.
Donc, pour prendre l'exemple de cette année, il y avait 30... il y avait un peu plus de 30 peintres.
Ouais.
7 ou 8 sculpteurs et des invités d'honneur donc, qui ont été très, très appréciés parce que c'est des gens qui sont régulièrement dans des grandes expos de la région.
D'accord.
Voilà.
Comment vous les trouvez, ces invités d'honneur ? Vous allez les chercher où ? C'est vous qui allez les chercher ou c'est eux qui vous contactent ?
Moi, c'est des connaissances. Par exemple, cette année, bon, c'est des gens que je connais, que j'apprécie beaucoup, et qui m'ont fait l'amitié de venir. Donc, voilà. Il faut...
C'est du réseautage.
Oui, c'est ça.
Réseau d'artistes. J'ai l'impression qu'il y a un grand réseau d'artistes dans le Beaujolais, qu'il y a plusieurs collectifs, que ça...
Ah oui, c'est vrai.
Il y a de nombreux artistes, et il y a pas mal d'activités. Il se passe pas mal de choses. Le prochain événement que vous organisez, on n'est pas forcément dans l'art plastique, loin de là, c'est un salon du livre. Alors pourquoi est-ce que les artistes organisent un salon du livre ?
Alors ça part d'une idée de la médiathèque de Montmerle. En fait, depuis que la création de Les Artistes, nous fonctionnons avec la médiathèque de Montmerle, qui fait l'interface avec la mairie. Et parce que nos premières expositions, en fait, se déroulaient dans la médiathèque.
D'accord.
Dans une salle d'exposition de la médiathèque. Ce qui fait qu'il y a eu, une communication qui s'est établie. Ça fonctionne bien. Et un jour, avec la responsable, elle me disait qu'est-ce qu'on pourrait organiser pour qu'il y ait un peu plus de fréquentation à la médiathèque. Et l'idée du Salon du Livre est née. Mmh. Donc on a commencé petitement en 2018, je crois.
Ouais.
En 2018, avec 25 auteurs, dans des salles un petit peu disparates. Mais bon, tout le monde s'est bien plu à ce salon, à commencer par les auteurs. Voilà, après le Covid est passé par là et nous a gênés pendant 2 ans. Et puis l'année dernière, on a décidé de relancer le salon coûte que coûte. Donc c'était dans des conditions un peu particulières, avec le masque obligatoire, ouvrir les fenêtres toutes les heures.
Au mois de novembre.
Oui,
évidemment, oui, c'était les mesures sanitaires, c'était comme ça.
Et puis pendant la pause repas, personne ne devait se déplacer. Enfin bon. Donc cette année, heureusement, on n'aura plus toutes ces contraintes.
Ouais.
Et là, par contre, on est passé un petit peu à l'étape supérieure. La mairie nous a octroyé donc la salle des fêtes de Montmerle, qui est beaucoup plus grande, qui est bien équipée, ce qui nous permet d'accueillir 48 stands,
ouais,
avec une 60aine d'auteurs présents qui vont dédicacer donc leurs ouvrages.
Et des auteurs de la région, il y a des limites dans les invitations que vous avez envoyées aux auteurs. Comment est-ce que vous les avez choisis ?
Oh ben, c'est pareil, on avait déjà un réseau.
Ouais.
L'information s'est répandue. Ceux qui sont venus les deux premières années étaient fortement motivés pour revenir. Et puis après, bon, j'avais mis des annonces sur des sites spécialisés. Et là, il y a beaucoup d'auteurs qui ont pris contact.
D'accord. Et si pour des artistes comme des peintres ou des sculpteurs, ça me semble évident d'exposer ses œuvres, la lecture, c'est quelque chose qu'on fait, c'est personnel qu'on fait à la maison. Là, un auteur, c'est quoi son intérêt d'aller venir mettre un stand dans un salon ?
Bah, c'est de vendre ses livres.
Tout
de, vendre, de vendre ses livres, de faire connaître sa pensée. Il y a vraiment des rencontres intéressantes à cette occasion. Il y a vraiment des rencontres. Il faut les susciter. Les auteurs sont toujours intéressés à expliquer leur démarche,
à échanger,
pourquoi ils ont écrit telle chose, pourquoi ils sont sur tel genre ou sur tel autre. Il faut remarquer que ce n'est pas un salon spécialisé. Tous les genres sont représentés. Il y a des polars, il y a des romans de terroir, il y a de la littérature enfantine, il y a de l'historique, tous les genres sont représentés.
Très bien. Donc il y en aura pour tous les goûts, avec des rencontres, dédicaces.
C'est ça.
Et tout ça. Et j'ai vu animation sur l'affiche. Qu'est-ce que vous avez préparé de beau ?
Oui, il y a des animations qui seront faites en matinée et puis en début d'après-midi, qui sont des lectures pour les petits, pour les enfants, et puis l'après-midi aussi pour les adultes.
Très bien. Bon, le troisième salon du livre de Montmerle-sur-Saône, du coup, c'est le 27 novembre, l'horaire de 10h à 18h à la salle des fêtes, organisé par le collectif Les Artistes. Comment est-ce qu'on peut se renseigner pour préparer sa visite ? Où est-ce qu'on trouve des infos ?
Vous pouvez trouver ça sur notre page Facebook, Les Artistes.
Tout simplement, sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Noël Agnelli, d'être venu nous présenter cet événement.
Merci,
Mathieu. À très bientôt, au plaisir.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, on fait une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Foster the People avec Houdini.
What you want?
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplifusienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'amarante réfléchie, plante qui repousse et refleurit cet automne. Son nom scientifique est Amaranthus retroflexus. Elle est classée dans la famille des amarantacées, qui dans nos régions est représentée par les amarantes et principalement par quatre espèces, l'amarante blanche, l'amarante blette, l'amarante couchée et bien sûr l'amarante réfléchie. C'est une plante herbacée annuelle, originaire d'Amérique. Sa hauteur est comprise entre 20 et 80 cm. Elle est couverte de poils assez discrets. Sa tige dressée porte des feuilles entières de couleur vert pâle. Et à son sommet, les fleurs verdâtres sont groupées en épis épais et compacts. Son biotope naturel se trouve dans les vallées alluviales, lisières et clairières forestières. Cependant, vous la trouverez aussi dans les cultures, vignes, vergers, maraîchages et jardins, les bords des chemins et des routes, ainsi que les terrains vagues. L'apparition des amarantes est toujours lié à un excès de potasse ou d'azote, dû à des causes très différentes selon la saison. Pour le côté médicinal, elle est utilisée en phytothérapie pour fortifier les ongles et le cuir chevelu et pour prévenir l'ostéoporose. D'autres propriétés lui sont attribuées, comme celle de lutter contre les maladies cardiovasculaires et celle de ralentir le vieillissement des cellules. Du côté comestible, l'amarante réfléchie est appréciée pour sa valeur nutritive. Elle est riche en vitamine A, vitamine du groupe B, vitamine C, E et K, en fer, en calcium et en magnésium. Elle contient de la lysine, qui est un acide aminé jouant un rôle essentiel dans l'équilibre alimentaire. Les feuilles et jeunes pousses des quatre amarantes que je vous ai citées sont comestibles et se consomment crues ou cuites. Quelques précautions cependant. Bien qu'aucune espèce du genre botanique Amaranthus ne soit connue pour être toxique à faible dose, leurs feuilles contiennent de l'acide oxalique et peuvent aussi contenir des nitrates si elles sont cultivées dans des sols riches en ce composant. L'eau de cuisson ne doit pas être consommée après usage, mais peut être utilisée comme engrais au jardin. Les Amérindiens ont utilisé l'amarante réfléchie pour une multitude de fins alimentaires et médicinales. Dans l'état indien du Kerala, on l'utilise pour préparer un plat populaire nommé toran. Les feuilles finement découpées sont accommodées avec de la noix de coco râpée, des piments, de l'ail, du curcuma. Je vous conseille d'essayer ce plat qui, pour moi, est un régal. Si vous avez la patience de trier les petites graines rondes et de couleur noire de l'amarante réfléchie pour les séparer de leur enveloppe pailleuse, vous pourrez ensuite les consommer crues ou grillées. Elles peuvent aussi être broyées en farine et utilisées pour le pain, les céréales ou en tant qu'agent épaississant. En plus, elles ont l'avantage d'être riches en protéines, minéraux et sans gluten. Le nom d'herbe à cochon lui a été attribué car on peut l'utiliser en fourrage pour les cochons, mais à faible dose et non quotidiennement en raison des problèmes qu'elle peut causer aux reins. Toutefois, en faible quantité, ce fourrage a un apport nutritionnel exceptionnel. Voilà, chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Allez, un peu de musique maintenant. On écoute un morceau de Young Folks. Non, c'est un morceau de Peter Bjorn and John. Ça s'appelle Young Folks.
You go along with someone like me.
Björn and John sur Calade avec Young Folks.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Oui, il est avec nous en studio. Le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, on a commencé il y a deux semaines maintenant
Une
grande série.
Une saga. Soyons modestes.
C'est encore plus classe. Alors, rappelez-nous de quoi est-ce qu'on parle.
Eh bien, on parle des régimes politiques d'accumulation, qui tout de suite fait moins saga, fait plus sujet chiant. C'est-à-dire, en fait, les régimes politiques qui permettent au système économique de fonctionner, et on a vu qu'ils se sont succédés depuis le début du 19e siècle, différents types de régimes politiques. On a vu d'abord le régime libéral, tout le 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le régime fordiste de 1945 à 1975, les fameuses Trente Glorieuses, le régime néolibéral qui domine depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, pendant 40 ans, et qui continue à dominer, hein, ne nous trompons pas. Simplement, on a décrit la semaine dernière comment l'événement du Brexit, le fait que le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne, était l'événement annonciateur de la montée en puissance d'un nouveau régime politique d'accumulation qui est le libertarisme autoritaire, qui pourrait, gardons le conditionnel, qui pourrait succéder au régime néolibéral, mais je veux dire, le combat est en route et tout n'est pas terminé. Peut-être que le régime néolibéral va continuer à dominer, on ne sait pas.
C'est les régimes qui permettent le fonctionnement...
C'est toutes les structures politiques qui permettent un bon fonctionnement du système économique.
Du capitalisme.
Capitalisme, bien sûr, sachant que ce capitalisme, il évolue.
Ouais.
Et donc, ça explique aussi pourquoi les régimes politiques évoluent également.
Okay.
Alors maintenant, il s'agit de tracer les contours de ce libertarisme autoritaire, puisque là, on l'a juste cité sans trop le décrypter. Tout part en fait d'une myriade de think tanks. Les think tanks, ce sont des terminologies américaines.
Mais l'accent est excellent.
Ouais, mais j'essaye, hein, c'est comme ça. En fait, ce sont des groupements d'intellectuels qui se réunissent pour produire de la pensée. Et bon, ce qu'ils ont besoin, c'est un peu de pépette hein, quand même pour financer la structure. Et donc, ces think tanks se sont développés à partir des années 90-2000 aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais à travers une inspiration qui est l'inspiration libertarienne, la philosophie libertarienne. Ils sont largement climato-sceptiques, alors pour une raison très simple, hein, c'est que beaucoup sont fondés par des milliardaires qui ont fait fortune dans les énergies fossiles. Donc voilà, naturellement, ils sont climato-sceptiques.
Ils ne sont pas forcément voilà. Sceptiques, mais en tout cas...
Oh, si quand même, très.
C'est pas leur souci, quoi.
Voilà, oh non, ils sont climato-sceptiques, non, largement. Et ils sont néoconservateurs au sens américain du terme, les fameux néocons américains qui ont commencé à avoir du pouvoir à partir de W. Bush, le crétin président... qui a exercé aux États-Unis pendant 8 ans. Alors, il y en a des très puissants aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni. Je vais en citer quelques-uns. Au Royaume-Uni, il y a une rue à Londres qui s'appelle la Tufton Street, où se rassemble une myriade de think tanks libertariens. On a par exemple l'Adam Smith Institute, on a le Taxpayers Alliance, le Global Warming Policy Foundation, l'Atlas Network, et tout ça, c'est tout dans la même rue, Tufton Street, chacune avec ses spécialités en termes de réflexion. Aux États-Unis, je vais en citer trois. Il y a le Cato Institute, très célèbre, fondé par des milliardaires qui sont des frères, les frères Koch, libertariens climato-négationnistes à fond la caisse, le Heritage Foundation, libertariens à fond la caisse, et le Mises Institute, c'est du nom de Ludwig von Mises, qui était un grand économiste libéral tendance Hayek. Voilà, de la même école de pensée, l'école autrichienne de mémoire. Alors, quelles sont les idées de base de ces courants de pensée libertariens ? Eh bien, au niveau géopolitique, ils sont tous isolationnistes, comme l'était Donald Trump, c'est-à-dire tendance à dire il faut s'occuper de nos intérêts propres et arrêter de se mêler des affaires du monde. Par contre, ils ne sont pas protectionnistes économiquement, il ne faut pas confondre. Donc, ils ont tendance à s'opposer aux institutions internationales qui, pour eux, correspondent à une forme de collaboration internationale qu'ils réprouvent. Alors, ces gens-là, les libertariens, prônent un capitalisme totalement dérégulé, totalement, hein, attention. Pour eux, l'État n'est là que pour garantir une chose, et rien d'autre, c'est la propriété privée. C'est tout. Ils voient la société uniquement à travers le prisme des seuls individus. En gros, la société n'existe pas, n'existe que des individus dont le but est de chercher leur propre bonheur. Voilà. Bon, ce début de description pourrait faire dire qu'ils sont pas si éloignés que ça des néolibéraux. C'est un fait. Évidemment, oui. Ils sont pas très éloignés, mais sauf qu'ils vont plus loin que les néolibéraux sur plein d'aspects. Par exemple, sur le rôle de l'État, pour eux, tout doit être privatisé. Les fonctions régaliennes, c'est-à-dire police, justice, armée, privatisées. L'éducation, privatisée. Les infrastructures, privatisées. Tout ça, ça doit être enlevé des mains de l'État. D'autre part, alors que les néolibéraux gardaient quand même l'idée que le recul de l'État bénéficierait au plus grand nombre, donc au bien commun, les libertariens, non, ils s'en foutent, ils disent de toute façon le recul de l'État, la quasi-disparition de l'État, c'est l'objectif, quelles qu'en soient les conséquences, même si elles sont négatives.
D'accord.
C'est des jusqu'au boutistes. Concernant les libertés démocratiques, alors on a déjà vu ensemble, Mathieu, que les néolibéraux les placent après la liberté de marché. Je l'ai rappelé il y a deux chroniques. Les libertariens, bien sûr, sont sur la même ligne, mais avec encore moins de scrupules. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, toutes les libertés sont secondes par rapport à la seule liberté qui vaille, la liberté de posséder, liberté de propriété, et la liberté d'accumuler. Avec les libertariens, quelque part, on pourrait dire, Mathieu, qu'on arrive à la mort définitive d'un mythe qui a longtemps accompagné le libéralisme. C'est le mythe que le capitalisme aurait besoin de la démocratie pour fonctionner et générerait des sociétés qui vont vers la démocratie.
C'est ce qui était vendu pendant...
C'est ce qu'on nous a longtemps répété, jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça.
Pendant la guerre froide où on disait...
Mais avant, ça remonte à Adam Smith. Hein, dès Adam Smith, il nous dit ça. Le problème, c'est qu'on a vu qu'avec les dictatures militaires d'Amérique du Sud dans les années 70 et avec la Chine moderne encore plus, il n'en est rien. On peut faire du capitalisme pur et dur dans des systèmes totalement non démocratiques. Les libertariens, eux, s'accommodent très bien de ce constat. Pour eux, le capitalisme n'a pas besoin de la démocratie pour fonctionner. Voilà. Je vais faire un petit retour en arrière vers un économiste qui a écrit un livre important dans les années 40. Ce livre, c'est La Grande Transformation, et l'économiste s'appelait Karl Polanyi. Dans La Grande Transformation, Karl Polanyi affirmait que c'est le capitalisme lui-même qui, par les crises qu'il provoquait, avait donné naissance au fascisme. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, avec un peu en repensant à Karl Polanyi, on peut penser à minima qu'au vu de la domination des élites libertariennes sur le monde économique et politique, la domination progressive, on arrive à un stade où ces élites pensent pouvoir, faute d'opposition sérieuse, se débarrasser de l'encombrant système démocratique libéral. On en est là, hein, en fait.
Hein. Se débarrasser, oui.
Oui, je pense que s'il n'y a pas d'opposition sérieuse qui se manifeste, ils vont considérer que la démocratie libérale n'est pas nécessaire. Tout ça, ça nous permet de comprendre, Mathieu, les liens de respect mutuel qu'il y a entre les courants libertariens d'un côté et les forces politiques autoritaires qui montent en puissance dans le monde entier. Je pense à la Hongrie de Orban, la Pologne, des mouvements d'extrême droite partout en Europe, notamment en France et en Italie, à la Russie de Poutine avant l'invasion de l'Ukraine, au Brésil de Bolsonaro. Tout ça, il y a vraiment des liens de respect mutuel, comme je l'ai dit, entre les libertariens et eux. Et donc... quelque part, on pourrait dire que ce régime, ce nouveau régime politique d'accumulation, libertarien autoritaire, qui monte en puissance, s'il arrive à vraiment prendre le pouvoir dans le monde entier, il sera le fruit d'une alliance entre une élite financière richissime, financière et intellectuelle, composée de milliardaires, ou financée par des milliardaires, et une masse de citoyens qui se tournent massivement vers des courants d'extrême droite dans le monde entier. Voilà. Donc si certains auditeurs pensent, en m'écoutant, à l'action méthodique de notre milliardaire à nous, Vincent Bolloré, dans le paysage médiatique français, pour installer, légitimer, rendre acceptable, rendre incontournable une vision du monde basée sur les valeurs d'extrême droite, ils ont gagné un carambar. On a un très très bon exemple de ce type d'alliance avec M. Bolloré et son projet à travers, qu'il met en œuvre à travers CNews, Europe 1, etc. etc. C8 aussi également, hein, ces petits soldats, zélés petits soldats comme Cyril Hanouna et compagnie. Ouais. Bref, inutile de vous le cacher, je n'ai pas encore abordé l'aspect le plus inquiétant de leur vision du monde. Alors que j'en ai déjà abordé pas mal.
Oui, c'est pas super rassurant déjà.
Eh bien, on va parler de la question climatique. On a vu donc, je l'ai dit, hein, que le climato-négationnisme, climato-scepticisme dominait dans le camp libertarien. Alors, je vais faire un rapide déroulé de l'évolution des positions des climato-sceptiques depuis les années 90. On pourrait dire que ça s'est passé de la manière suivante. D'abord, dans les années 90, ils ont nié, les climato-sceptiques ont nié, la réalité du réchauffement climatique. Et ce, jusqu'au début des années 2000. Puis, à partir des années 2000, ils ont accepté, parce qu'ils étaient bien obligés, ils n'avaient pas le choix, la réalité de ce réchauffement. Mais ils ont nié que les causes de ce réchauffement proviennent des activités humaines. Ce n'est pas les activités humaines, c'est le soleil, c'est des bulles solaires. D'accord ? Et puis après, ils ont fait des variantes aussi. Il y a toujours eu des périodes de réchauffement dans l'histoire. Ça, c'en est qu'une parmi d'autres. C'est transitoire, ça ne durera pas. D'accord ? Bon, scientifiquement, non, c'est pas du tout ça. La réalité n'est pas de cet ordre, c'est plus compliqué. Et enfin, aujourd'hui, tout en introduisant parfois des variantes à leur discours, par exemple, c'est la faute de la croissance démographique, hein, si on a du réchauffement climatique, ils expliquent qu'il vaut mieux, là je vais citer en fait un ancien ministre de Boris Johnson, qui est gérant de hedge fund. Tiens, on revient à ce monde financier qui a soutenu le Brexit. Eh bien, il expliquait en 2017 qu'il vaut mieux accepter le changement climatique et s'y adapter, plutôt que de, j'ouvre les guillemets, retourner à l'âge de pierre en réduisant la consommation des gens. Donc, il faut faire avec, quoi, en quelque sorte. C'est un peu leur discours. Alors, bien sûr, ils reprennent à leur compte la philosophie des mécanismes de marché, ce que j'avais appelé la soutenabilité faible, c'est-à-dire, avec les mécanismes de marché, les prix vont augmenter et ça incitera les acteurs économiques à investir dans l'innovation verte, etc. etc. Bref, on avait un peu parlé de tout ça. Bon, leur conception, évidemment, philosophico-politique passe par une idée: pour protéger la nature, il faut tout privatiser. Bah oui, c'est normal, hein, ils sont contre l'État, donc il s'agit de tout privatiser. D'abord parce qu'ils estiment que toute gestion collective publique est illégitime, et ensuite parce qu'ils estiment que ce sera plus efficace. D'accord ? Et donc on voit bien là aussi la filiation avec le régime néolibéral, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui mène vers une marchandisation totale du monde, marchandisation de la nature. Donc rien ne doit échapper à la marchandisation et à l'accumulation capitaliste. Alors voilà un petit peu le tableau. Je vais terminer cette troisième partie par une question. Le fameux aspect effrayant que j'ai évoqué plus haut, il n'y est pas encore, hein, je m'en approchais, mais est-ce que ces libertariens, milliardaires pour beaucoup, intellectuels, croient vraiment que les solutions qu'ils préconisent vis-à-vis du problème du réchauffement climatique sont vraiment efficaces ? C'est une bonne question, hein ?
Ouais.
Il est permis de penser que pour une bonne partie d'entre eux, la réponse est non. Il est permis de penser que la plupart d'entre eux savent que leurs solutions ne sont pas efficaces. Alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils ont en tête pour ce qui est de notre futur à tous ? Pour répondre à cette question, peut-être faudra-t-il qu'on s'intéresse, un de ces quatre, à l'idéologie des milliardaires. Voilà, un petit teasing sur une chronique prochaine qui pourra creuser un peu cette question. Je vais faire une conclusion donc à cette trilogie, en quelque sorte, sur le régime libertarien autoritaire. Nous avons tracé donc, dans ces trois chroniques les contours de forces politiques, économiques et politico-économiques très puissantes qui peu à peu prennent place dans les sphères du pouvoir aux États-Unis et au Royaume-Uni pour déclencher cette révolution libertarienne. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, qu'on se rappelle que c'est dans ces deux mêmes pays qu'est partie la révolution néolibérale au début des années 80, avec le succès que l'on sait, elle domine depuis 40 ans. Donc attention, même point de départ. Tout n'est pas joué pour autant dans le reste du monde, hein, je dirais, le régime néolibéral continue à dominer, mais l'alliance libertarien-extrême droite est la force politique la plus menaçante aujourd'hui dans bien des pays du monde, à commencer par la France. À suivre donc de très près. J'en ai terminé, Mathieu.
On est de très bonne humeur maintenant, grâce à vous.
Comme d'habitude.
merci beaucoup. À très bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade. I'm on another side of the moon. What if the turns die? I'm on another side of the moon. What if the turns die? Floating in the distant space of mine, lying on the waves.
C'était Edgar sur Calade avec un morceau choisi pour son titre après la rubrique du prof Patrick. Ça s'appelait Dictators. Après avoir parlé du libertarisme autoritaire. C'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous la retrouverez en podcast sur radio-calade.fr. Réécoute demain matin à 10h. À tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.